Bac FM, il est 19h. À l'occasion, aujourd'hui, en ce 22 mars de la Journée mondiale de l'eau, eh bien, nous abordons la thématique des ressources dans la Nièvre. Guillaume Debire sera mon invité tout à l'heure. Il est maraîcher à la Baratte à Biot. Mais juste avant, Blandine Delaporte répond à mes questions. Bonjour, Blandine Delaporte.
Bonjour.
Vous êtes première vice-présidente chargée de la transition écologique et du dialogue avec les habitants. Et je vous ai demandé d'intervenir sur Bac FM à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau qui a lieu aujourd'hui. Alors c'est l'Organisation mondiale des Nations Unies qui a mis en place cette journée depuis 1992 avec comme objectif de sensibiliser la population à une gestion durable des ressources en eau. Comment le département participe à cette sensibilisation? C'est ce qu'on va voir pour une part. Et puis on va revenir aussi sur cette gestion des ressources en eau. Mais avant, première question, quel est le contexte actuel général de la Nièvre concernant sa ressource en eau?
Alors on a subi un hiver sec, hein, on l'a tous constaté. Les niveaux d'alerte étaient quand même assez bas. Peu de précipitations au mois de janvier et février. Les nappes n'ont pas eu véritablement le temps de se recharger dans cette période hivernale. Donc ça n'augure rien de bon pour la suite, à moins que mars et avril nous fassent mentir. Mais en tout cas, on est déjà dans une période un peu critique sur la quantité d'eau. En termes de qualité, disons que la Nièvre est plutôt médiocre sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, notamment dans le sud du département. La qualité est moins bonne dans le sud du département que dans le nord.
Comment cette qualité d'eau, elle peut varier justement entre des régions, dans une région justement?
Ça dépend de ce qui tombe dedans et ce qui s'écoule dedans. On entend évidemment les molécules chimiques qui s'écoulent dans les cours d'eau suite à des pluies. On imagine évidemment pesticides, fongicides, enfin pas mal d'intrants de l'agriculture. Même si les agriculteurs ont fait ces dernières années beaucoup d'efforts pour réduire considérablement leurs intrants, il n'empêche qu'il en reste encore. Et puis, plus le niveau des cours d'eau baisse et plus il y a concentration, en fait, des molécules chimiques. Ouais. Et donc, évidemment, quand on fait les prélèvements et qu'on analyse, il y a beaucoup plus de molécules,
de bactéries,
au centimètre cube, quoi.
Quel acteur, justement, travaille sur toutes ces questions multiples que peuvent avoir l'eau sur le département?
Alors, il y a une multitude d'acteurs. Vous avez ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau potable et l'assainissement. Donc, vous avez des entreprises privées qui ont parfois une délégation de services publics par les communes. Ce sont les communes qui, pour aujourd'hui, ont encore la compétence adduction d'eau potable et assainissement. Elles confient parfois cette compétence à des syndicats d'eau. Donc là, ce sont les syndicats qui prennent le taureau par les cornes et qui travaillent sur ces questions. En 2026, normalement, ce sont les intercommunalités qui récupéreront la compétence eau potable et assainissement. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Ce sont pas mal d'associations naturalistes, pas mal d'organismes comme les agences de l'eau, comme l'Office français de la biodiversité, comme l'Agence régionale de la biodiversité. Enfin bref, il y a pas mal de monde qui s'occupe de l'eau. Il y a pas mal d'acteurs autour de cette question de l'eau et c'est une question à enjeu dès aujourd'hui et encore plus pour demain.
Et qui travaille sur toutes les spécificités aussi que peuvent avoir toutes ces ressources d'eau. Il y a de multitudes de choses à avoir, plusieurs aspects aussi à observer. Justement, qu'est-ce qu'ils observent au fur et à mesure du temps sur les ressources en eau dans la Nièvre?
Alors, il y a deux choses. Il y a la ressource diminue de façon un peu structurelle. C'est pas juste un hiver sec qui pose des problèmes. C'est la multiplication et la succession d'étés secs, d'hivers secs qui se succèdent depuis quelques années et les prévisions ne sont pas bonnes non plus pour
les années à venir. C'est quelque chose qui est amené à continuer, à se pérenniser. Hein, les étés encore de plus en plus secs et les hivers aussi d'ailleurs.
Malheureusement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on pouvait se dire les nappes, elles vont se reconstituer, on est tranquille avec les hivers pluvieux. Et puis on tombe aussi sur des hivers secs. Le schéma des précipitations, même s'il est à peu près équivalent sur l'année, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce dans la Nièvre, il y aura donc autant de millimètres de précipitations tombées aujourd'hui que dans 20 ans, mais ça va s'étaler différemment dans l'année. Et donc du coup, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour certaines activités. On pense à l'agriculture, on pense aussi aux canaux, on pense à l'industrie qui peut avoir besoin d'eau. On a une centrale nucléaire pas très loin du côté de Belleville. Là aussi, il faut que la Loire soit suffisamment haute pour alimenter et refroidir Belleville. Bref, tout ça, c'est quand même des inquiétudes pour aujourd'hui déjà et pour demain.
Justement, il y a un plan qui a été mis en place par le département concernant tout ça. Ça concerne aussi une étude d'hydrologie. Qu'est-ce qu'il prévoit, ce plan ?
Alors, ce plan, il va sortir après une étude qui s'appelle une étude HMUC, Hydrologie, Milieu, Usage, Climat. Et nous allons voir et mettre en relation à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines, c'est-à-dire que comment elles communiquent entre elles, comment le niveau de l'une est influencé par le niveau de l'autre, comment la qualité de l'une influence la qualité de l'autre, et puis avoir des données fiables que nous allons pouvoir partager avec tous les acteurs de l'eau et les usagers sur notre ressource en eau. Parce qu'on nous dit... Alors, vous savez, c'est le vieil adage, la Nièvre, pays des eaux vives. Oui, mais enfin bon, l'eau est un peu moins vive dernièrement et notre ressource, même si on est moins à plaindre que d'autres territoires, malgré tout, il faut la préserver, la protéger et la valoriser. Et certainement pas la gaspiller. Donc, au-delà de l'hydrologie, cette étude va aussi étudier comment... les milieux naturels et les milieux aquatiques nous offrent des services écosystémiques. Et puis, parallèlement, on va voir aussi quel est le besoin de ces écosystèmes aquatiques, quel besoin en eau ils ont pour rester vivants, tout simplement, parce que, encore une fois, préserver cette biodiversité, c'est aussi préserver la nature, nos paysages, nos activités. Je pense, par exemple, aux activités pêche, aux activités touristiques. Du coup, ça a une influence sur un certain nombre d'activités économiques aussi du territoire. Donc ça, c'est la partie milieu naturel. Et donc, comment tout ça fonctionne, hydrologie et milieu. Et puis, on va aussi s'interroger sur, les milieux naturels ne vont pas diminuer leurs besoins, c'est pas eux qui vont diminuer leurs besoins et leurs usages de l'eau pour rester vivants, et bien comment nous, on peut faire en sorte de modifier nos usages pour un meilleur partage de l'eau, sans gaspillage, et donc les choix que nous allons faire maintenant ou dans quelques mois auront un impact aussi sur les 10, 20, 30 prochaines années. Ce sont des choix importants à faire.
Et c'est ce qui a été évoqué aussi jeudi dernier lors d'un COPIL. Alors,
oui.
On peut peut-être revenir sur ce qu'est un COPIL, justement, et ce qu'il comportait.
Alors, un COPIL, c'est un comité de pilotage, c'est-à-dire que cette étude HMUC, elle est menée directement par des organismes qui nous accompagnent, des bureaux d'études qui nous accompagnent pendant 2 ans sur cette étude. Et puis, le comité de pilotage, il est formé par à la fois les représentants des syndicats d'eau, des représentants des communes, de l'agence Loire-Bretagne, des services de l'État qui sont très impliqués dans cette étude, des associations naturalistes qui sont là aussi pour faire entendre la voix des milieux naturels et de la préservation de la biodiversité. Bref, un panel assez exhaustif des acteurs de l'eau autour de la table. Il y avait 45 personnes autour de la table l'autre jour au département.
Ces acteurs de l'eau, c'est aussi les agriculteurs. Comment vous participez aussi au soutien que vous pouvez leur apporter ?
Alors, cette année, malgré un budget très contraint, nous proposons dans notre budget 2023 qui va être voté fin mars, un soutien accru aux agriculteurs, particulièrement dans l'adaptation au changement climatique de leurs exploitations, en parallèle avec ce que fait la région. Et donc, nous abondons les dispositifs régionaux pour aider un peu plus les agriculteurs sur l'adaptation de leurs exploitations au changement climatique. La question de l'eau fait partie de ces différents dispositifs.
Et quelle est leur plus grande problématique qu'ils peuvent vous évoquer lors de rencontres et de réunions ?
Ah ben, la ressource en eau, c'est évidemment une problématique majeure pour l'agriculture. Ils sont évidemment totalement dépendants du climat. Ils subissent le climat dans ce qu'il a de plus contraignant, la chaleur extrême avec les canicules, les précipitations qui sont pas toujours au rendez-vous et qui ne se stockent pas dans les nappes. Ils subissent aussi parfois des dégâts considérables avec des épisodes météorologiques extrêmes comme ce qu'on a pu voir type inondation ou type grêle qui détruit la récolte ou même qui a un impact sur le bétail. Bref, oui, ils sont. C'est vraiment une activité donc, pour laquelle les aléas climatiques, c'est un souci quotidien.
Et c'est ce qu'on va évoquer avec mon prochain intervenant. Il est maraîcher et on va pouvoir parler de toute cette problématique aussi autour de l'eau et de comment les agriculteurs comme les maraîchers peuvent aussi s'adapter avec de nouvelles manières de fonctionner, de travailler. Merci beaucoup, Blandine Delaporte.
Merci à vous.
Merci d'être intervenue sur BAC FM donc à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau. Merci beaucoup.
Les ressources en eau, une problématique qui concerne beaucoup le milieu agricole. Guillaume Debire est maraîcher. Alors comment gérer les ressources et adapter son activité en conséquence? Réponse. Bonjour Guillaume Debire.
Bonjour.
Vous êtes maraîcher à la Barata Bio.
C'est ça même, oui.
On va revenir sur ce qui a eu lieu le 4 mars, le salon à la ferme, avec les entretiens que vous avez pu avoir, aussi les discours que vous avez eus et surtout sur ces ressources en eau qui peuvent impacter votre activité, les méthodes que vous mettez aussi en place, peut-être pour contrer ce manque d'eau que vous pouvez connaître tous les jours. Mais avant, on va revenir sur un détail. Qu'est-ce que c'est la Barata Bio ?
Alors la Barata Bio, c'est une entreprise de maraîchage qui est basée sur Nevers, à la Barata exactement. Donc du maraîchage bio de proximité, en circuit court. Donc je travaille avec des AMAP, je travaille en vente directe. AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
D'accord.
Donc c'est-à-dire en fait que les gens prépayent les paniers que je vais livrer chaque semaine.
D'accord, ok.
Voilà, donc en fait ça me permet d'avoir un soutien, surtout en début d'année, un soutien financier j'entends.
Oui, bien sûr.
Et puis la garantie de pouvoir écouler mes produits aussi.
D'accord, ok.
Après, il y a une grosse partie qui est vendue sur les marchés, marché Saint-Arègle à Nevers. Et puis, il y a une autre partie qui est vendue en circuit long, type Biocoop, Natura. Mmh.
Et puis, il y a ce salon à la ferme qui a eu lieu le samedi 4 mars. Alors, il y a eu une journée porte ouverte. Et puis, il s'est poursuivi le lendemain avec beaucoup d'échanges, avec des explications aussi sur les problématiques que vous pouviez rencontrer. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais juste avant, ce salon à la ferme, il a été organisé par qui ?
Alors, c'est l'initiative de la Confédération Paysanne, suite justement aux années Covid, où le salon de l'agriculture à Paris avait été annulé. Donc en fait, on a pris l'initiative, nous, la Confédération Paysanne, de recréer un salon à la ferme, c'est-à-dire une alternative au salon de l'agriculture, et faire venir les gens, en fait, sur les fermes, montrer un peu comment on travaille, essayer d'aborder des thématiques type l'eau, le travail de sol, comment on élève nos animaux, comment on travaille en fait.
En fait, tous les aspects de votre métier étaient mis en avant, il y avait aussi une explication de votre profession.
Tout à fait.
Et une discussion autour de tout ce que vous pouvez rencontrer comme la thématique de l'eau justement. C'est pour ça que vous êtes ici, à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau donc. Qu'est-ce qui était abordé à travers cette thématique-là ?
Eh bien, nos changements de pratique. Clairement, parce qu'il va falloir s'adapter en fait à ce réchauffement climatique qui avance tout doucement. On ne peut pas dire qu'il y a des gros manques d'eau, on va dire qu'il y a des plus grandes périodes sans eau, mais la quantité d'eau qui tombe annuellement est toujours la même. Voilà. Donc après, on va avoir plutôt des fortes précipitations et des périodes de sécheresse assez longues, qu'il va falloir pallier justement par de l'irrigation, type du goutte à goutte ou de l'aspersion, mais il va falloir avoir des réserves en eau à ce moment-là pour pouvoir pallier à ce manque de pluie en fait. Donc on va sûrement avoir des grosses précipitations aussi à de certains moments ou au contraire des gros manques d'eau. Donc les cultures, il va falloir qu'elles survivent à ça et il va falloir qu'on s'adapte nous aussi en adaptant nos cultures et en adaptant notre façon de travailler en fonction de ce que présente la nature.
Quoi. Et on reviendra justement aussi sur ce changement de pratique. Qu'est-ce que vous mettez en place? J'ai vu aussi qu'il y avait une certaine technique avec la plantation d'arbres aussi qui pouvait jouer là-dessus. On reviendra dessus tout à l'heure. Qui était présent à ce salon?
Alors à ce salon, donc, il y avait la Confédération Paysanne, bien sûr, hein, de la Nièvre. Il y avait également le département, on a invité tous les acteurs de l'eau, donc la DDT, la SOR, il y avait la Chambre d'Agriculture, voilà, donc la police de l'eau, que des acteurs en fait qui ont un intérêt en fait à venir d'une part partager ce moment et interagir avec nous pour justement essayer d'évaluer comment on oriente l'agriculture de demain. Voilà, et donc à ce niveau-là, nous on s'est positionné un peu comme précurseur, on essaie de changer nos pratiques, on essaie de faire évoluer nos pratiques.
Écouter les problématiques de certains avec les solutions d'autres, et ceux qui ont des solutions peuvent rencontrer aussi des fois des problématiques. Tous les acteurs de l'eau peuvent essayer de trouver des solutions, mais avec certaines problématiques que par exemple les agriculteurs ne connaissent pas forcément. C'était ça aussi le but, c'est d'échanger chacun sur des points de vue qui pouvaient être différents aussi.
Tout à fait, et puis échanger aussi nos pratiques agricoles en fait, et les faire évoluer dans le sens où...
C'est primordial à l'heure actuelle de changer les pratiques agricoles.
Bah, on va être contraint de le faire.
Que ce soit vous dans le maraîchage, mais comme les éleveurs bovins par exemple
tout
aussi.
Tout à fait. Et les maïsiculteurs, peut-être qu'ils vont devoir faire du maïs non irrigué, des choses comme ça. Peut-être qu'il va y avoir, c'est même pas peut-être, c'est certain qu'il va y avoir un changement de pratique à amorcer dans les 10 années à venir. D'une part parce qu'il y a un renouvellement des générations qui se fait au niveau des fermes, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent en retraite aujourd'hui. Ouais. Donc les nouveaux arrivants, s'ils s'installent, eh ben, il va falloir qu'ils s'installent en connaissance de cause, en adaptant leurs pratiques agricoles, que ce soit en élevage, comme en maraîchage, comme en grande culture. Et donc il va falloir faire avec de l'eau qui va se raréfier à certains moments, et il va falloir faire avec des excès d'eau à d'autres moments. Voilà, donc peut-être adapter certaines variétés de céréales ou de légumes, etc., qui vont être plutôt résistants au stress hydrique, par exemple, ou au contraire au surplus d'eau. Quoi.
Est-ce que ces nouvelles problématiques, justement, elles devraient commencer à être apprises à l'école pour les futurs agriculteurs aussi qui arrivent sur le marché dans les années à venir?
Alors, on a beaucoup de retard. Hein. On a beaucoup de retard et le changement climatique va plus vite que nous. On a cru qu'on allait pouvoir en fait
le gérer, le contrôler.
Voilà, le contrôler et le maintenir cette agriculture telle qu'on la pratique depuis 50 ans, voire même 70. Sauf que, en fait, on se rend compte qu'en fait, là, on va dans le mur. Et c'est de plus en plus difficile en fait d'obtenir des rendements ou de maintenir la fertilité des sols dans nos sols et d'avoir justement des cultures qui survivent en fait à ce dramatique changement quoi.
Et c'est la principale raison de pourquoi l'eau ça devient un problème pour les agriculteurs, ou il y a aussi d'autres raisons au-delà de celle-là, de cette fameuse ressource?
Eh ben, c'est un problème. Alors, oui et non, pas encore, parce que je vous dis, il y a la même pluviométrie qui tombe chaque année.
C'est un problème en devenir.
Voilà, c'est un problème en devenir, et il va falloir juste commencer à s'adapter très très tôt. C'est déjà le problème dans d'autres départements, avec beaucoup de communes qui se sont retrouvées privées d'eau potable l'été dernier. Donc, quid de cette année, combien il y aura de communes qui n'auront pas l'eau potable? Et je pense que les mentalités vont changer à ce moment-là. Quand il n'y aura plus d'eau au robinet, les gens vont commencer à réfléchir un peu plus à comment ils consomment, quels impacts à leur consommation sur la planète et sur le niveau des nappes phréatiques, etc. Voilà, donc c'est un peu une démarche globale où on essaie d'être précurseur en ce sens-là, et puis d'essayer d'amorcer en fait au moins un dialogue et une réflexion autour de comment les usages de l'eau et puis comment on économise cette eau.
Avec cet objectif de ne pas être pris au dépourvu dans les années à venir aussi.
Voilà.
Est-ce que combattre le déficit d'eau, c'est aussi combattre le réchauffement climatique?
Alors, je dirais pas combattre, je dirais faire avec, en fait, parce que de toute façon, la nature, elle sera plus forte, quoi qu'il se passe. Hein. Donc, on va faire avec, on va essayer de s'adapter, et on va essayer de capter de l'eau, par exemple, l'eau de nos toitures, quand elle va tomber. Pour autant, on va pas faire des méga bassines, voilà, c'est pas le propos, mais certains départements ont fait des choix, en fait, qui pour moi ne sont pas forcément judicieux pour le moment. Tant qu'il y a de l'eau dans nos nappes phréatiques, ça sera judicieux, mais si on peut plus les remplir demain, ces bassines-là, comment on fera? Voilà. Donc, peut-être, avant tout, déjà, capter l'eau de nos serres, capter l'eau de nos toitures, la stocker, faire des retenues collinaires, donc c'est des petites retenues à l'échelle de l'exploitation sur une rivière ou sur un bassin versant, sans qu'elles soient trop nombreuses, parce que sinon vous impactez le milieu aussi très fortement. Voilà, donc je pense que c'est une co-réflexion à avoir avec les services de l'eau, de l'État, de la Chambre d'agriculture, des agriculteurs eux-mêmes et les syndicats agricoles, pour pouvoir essayer de trouver des solutions qui soient avantageuses pour tout le monde et qui nous permettent en fait de continuer de manger et de produire, d'assurer la souveraineté alimentaire grâce à ce biais-là.
Vous, Guillaume de Bière, vous avez opté pour le bio, pour le maraîchage bio. Est-ce que ça a changé votre besoin d'eau par rapport... Vous avez toujours été dans le bio, c'est un...
Toujours, oui, toujours. En fait, j'ai un parcours d'éducateur spécialisé. Et puis ça fait 10 ans que je fais maraîcher bio à la Baratte. Ouais. Donc j'ai été mis en place à l'époque par la ville de Nevers et le conseiller départemental pour recréer une filière légumière. Ouais. Voilà. Et donc je suis en place depuis 10 ans.
Et est-ce que par rapport à peut-être d'autres collègues avec qui vous pouvez dialoguer, qui sont maraîchers mais sans être dans la filière bio, est-ce que vos besoins d'eau sont différents ou pas ?
Alors c'est très gourmand en eau les légumes, il faut savoir que c'est 90% de la constitution de votre légume, c'est de l'eau. Mmh. Voilà, donc en fait il n'y a pas de maraîchage sans eau, ça n'existe pas. Clairement, ça ne peut pas coexister. Des grosses périodes de sécheresse sans une goutte d'eau pour des légumes, ça ne marche pas. Mmh. Par contre, peut-être pour du pâturage et de l'élevage, ça peut être envisageable. Mais clairement, sans eau, de l'eau, des légumes, ça pousse pas. Donc après, il y a des nouvelles pratiques comme du goutte à goutte, du maraîchage sous les arbres. Vous en avez un peu
abordé. Ça. Justement, c'est intéressant d'évoquer ce que vous mettez en place, les nouveaux dispositifs que vous mettez en place pour limiter cette
évaporation.
Ouais, voilà, ouais. Tout
à fait. Alors, en fait, on a des IAE, on appelle ça. Donc c'est un vilain mot, mais c'est infrastructure agroécologique.
D'accord.
Donc en gros, on essaye de mettre en place des haies. Ouais. Par exemple, qui vont couper le gel, qui vont couper le vent, qui vont couper les grosses chaleurs, qui vont permettre des haies crénelées, on appelle ça, ce qui fait qu'en fait ça évite le dessèchement des sols. On va charger nos sols en humus, c'est-à-dire qu'on va remettre du fumier dans nos sols, on va remettre du BRF, on va remettre de la matière organique pour qu'elle capte l'eau et qu'elle garde l'eau et qu'elle le restitue aux légumes au moment donné, quand il y a un gros déficit. On fait aussi, alors c'est titre expérimental plutôt ça, mais c'est on a testé l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est-à-dire c'est de faire des lignes d'arbres d'espacer de 10 mètres à peu près, des arbres fruitiers, et au milieu on fait des légumes. Et j'ai pu constater les deux dernières années que les légumes étaient beaucoup plus en forme sous les arbres qu'en plein champ, en plein canard. C'est-à-dire que vous avez un peu d'ombre dans la journée, le légume bénéficie d'un tout petit peu d'ombre qui lui permet en fait de résister à la grosse vague de chaleur et il se comporte mieux, il pousse mieux, il est plus suave, il est meilleur au goût, il souffre moins, quoi, clairement. Voilà, et la production est là. Donc je pense que c'est une voie à explorer. Ça fait 10 ans, hein, je vous dis que j'ai pas de recul au-delà. Donc les fruits que j'ai semés là il y a 10 ans, bah, c'est maintenant que je les récupère. Donc peut-être que dans 10 ans on refait un point et puis je vous explique comment ça fonctionne vraiment.
Et puis là ouais.
Mais je pense que c'est une voie à suivre en tout cas. Associer en fait le paysan s'est coupé de l'arbre alors qu'il a toujours été en lien avec l'arbre.
Ouais.
Voilà, et il y a toujours eu des arbres dans nos haies, il y a toujours eu la forêt pas très loin du milieu agricole, du milieu paysan. Et en fait on a commencé à arracher ces forêts, ces haies, etc. pour faire des grandes plaines. Voilà, et je pense qu'il y a une partie de la solution qui est là.
Vous avez dit quelque chose de très intéressant à l'occasion de ce salon à la ferme. Vous avez dit concilier irrigation et travail avec la nature, c'est ça la solution. Alors, vous avez dit après que vous ne savez pas si c'était vraiment la solution, mais que pour vous, pour l'instant, c'était la solution. Vous êtes toujours d'accord avec ça ? Vous n'avez pas changé d'avis depuis 4 mars ?
Non, je n'ai pas changé d'avis. Alors, pour ce faire, on a fait un diagnostic agriculture paysanne. En fait, on a fait un zoom de la ferme, une photographie de la ferme avec un diagnostic sur le travail avec la nature, sur l'autonomie, sur quel changement de pratique à l'avenir, etc. Donc, on s'est appuyé là-dessus pour étayer nos propos lors du salon à la ferme. Et on est toujours parti dans ce sens. On va travailler avec la nature et pas contre elle, en fait. Vraiment, on l'accompagne et elle nous aide beaucoup aussi à produire.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Guillaume de Bière, merci d'être venu sur Bac FM.
À bientôt.
À l'occasion de cette journée mondiale de l'eau. Et puis, j'invite tous les auditeurs de Bac FM à aller soutenir les maraîchers, les agriculteurs. Ils ont besoin de nous et de soutenir ce savoir-faire français. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bac FM, tout de suite, le retour du son pop-rock sur le 106.1. Puis, nous, on se retrouve demain à 13h.